Vous êtes sur RTL.
On dit il fait beau, il fait chaud, ouais, mais je vais vous trouver quelque chose.
Voilà, elle a toujours quelques bémols.
Alors, je trouve qu'en talent d'imitation, vous êtes nul, hein, Stéphane Carpentier.
Mais vous serez la bienvenue quand même.
Ouais, respectez vos comptes ensemble, on se retrouve demain matin dès 5h.
À demain, Dominique. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans RTL Matin en ce mercredi du changement, car ce 21 juillet rime en effet avec passe sanitaire obligatoire désormais pour votre séance de musculation dans une salle de sport, pour vos longueurs dans une piscine, pour lire dans une bibliothèque, pour des frissons dans les parcs d'attractions, pour entrer dans les salles obscures. Il va falloir montrer patte blanche. Alors ce matin, nous irons sur place pour vous, pour voir si tout est prêt. Au Puy du Fou, par exemple, le patron des lieux sera avec nous tout à l'heure, tout comme celui des cinémas de notre pays. Il est fou furieux de la décision du gouvernement, alors que débarquent de nombreux longs métrages ce mercredi, ces jours de sortie, avec un événement, un film RTL, la série culte Kaamelott, adaptée au 7e art, avec Chabat, avec Clavier, avec Gallienne, et bien sûr le réalisateur Alexandre Astier.
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il n'y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
C'est du bonheur, Alexandre Astier, Guillaume Gallienne qui seront avec nous dans Laissez-vous tenter, version été. L'été, oui, car il fait beau, il fait chaud ce mercredi et ça, c'est déjà pas mal. Bienvenue, vous êtes chez vous, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet pour toute l'actualité du mercredi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, un mouchard à l'Elysée.
Pour l'instant, ce n'est qu'un soupçon, mais Emmanuel Macron figure sur la liste des personnalités espionnées grâce au logiciel Pegasus. Une enquête est ouverte. Jamais sans mon passe, vous le disiez, le passe sanitaire devient obligatoire aujourd'hui dans les lieux de loisirs et de culture. Et c'est une sacrée organisation, nous serons au parc Astérix. À l'avenir, ce passe devrait permettre de tomber le masque, enfin. À suivre également le portrait robot de la voiture type des Français, c'est la fin du gigantisme. Et puis une chouette balade à Saint-Tropez à la fin de ce journal, loin du bling-bling.
RTL Matin.
Ce n'est pas encore un scandale, mais c'est au moins une enquête. Emmanuel Macron a peut-être été espionné par le logiciel Pegasus.
En tout cas, le président figure sur la liste des personnalités visées par ce mouchard, un système israélien utilisé par de nombreux pays, souvent autoritaires. Officiellement, il s'agit de lutter contre le terrorisme. Dans les faits, les grandes oreilles permettent de se renseigner discrètement sur les grands de ce monde. En l'occurrence, Emmanuel Macron, mais aussi une bonne partie de son gouvernement de 2019. Le commanditaire serait le Maroc. Comme souvent, Sinamir, c'est l'un des deux téléphones portables du président qui aurait été piraté.
Un des téléphones d'Emmanuel Macron, en plus déjà compromis, comme on dit dans le jargon du renseignement, au moment du piratage d'En Marche. Rappelez-vous, c'était dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 2017. Un smartphone qu'il a pourtant gardé un certain temps et qui se trouve effectivement sur cette liste, donc potentiellement espionné, comme l'explique Nicolas Arpadjian, spécialiste en cybersécurité.
Après, vous allez faire un raisonnement, vous savez, qu'on qualifie par syllogisme. Est-ce que ils pouvaient le faire? Oui. Est-ce qu'ils avaient intérêt à le faire? Oui. Est-ce qu'ils avaient la capacité de le faire? Oui. À leur place, est-ce que vous l'auriez fait? Oui.
D'autant qu'à écouter certains anciens conseillers ou ministres actuels, Emmanuel Macron, comme le gouvernement dans sa majorité, ne sont pas très clients des téléphones cryptés préconisé par le renseignement ou la cyberdéfense, pas assez pratique.
C'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'est pas très ergonomique, c'est un téléphone dans lequel il n'y a pas forcément d'annuaire dedans, vous n'avez pas d'application. Ensuite, il y a des appareils qu'il faut réinitialiser régulièrement, puis c'est un appareil supplémentaire. Donc oui, bien sûr, c'est une hygiène.
Et le virus diplomatique semble beaucoup moins pris à la légère désormais, vu la réaction de la présidence. Seul l'examen de l'appareil pourra permettre de trouver quelconque trace d'infection, autrement dit d'espionnage.
Explication RTL signée Sinamir. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves. Voilà le commentaire de l'Elysée. Le Maroc, lui, nie toute implication dans cette affaire.
Alors un président espionné, est-ce si grave et est-ce si nouveau? On en parlera tout à l'heure avec notre invité à 7h45, le sénateur LR Bruno Retailleau, qui va nous accompagner à 8h moins le quart. Le temps du pass sanitaire est donc venu. Isabelle, désormais, il fait partie de notre quotidien.
Oui, à partir d'aujourd'hui, impossible d'aller au cinéma, au musée ou dans une salle de sport sans son fameux QR code sur le téléphone portable. Ou à défaut une attestation papier. En clair, il faut être vacciné, être immunisé ou présenter un test négatif de moins de 48 heures. Le pass est indispensable aussi dans les parcs d'attractions. Au parc Astérix, on a embauché 40 personnes supplémentaires pour les contrôles. Raphaël Thomas a assisté pour RTL au dernier préparatif.
Bienvenue au parc Astérix.
Dernier coup de stress avant la mise en place du nouveau protocole par les équipes du parc.
On est prêt, hein, en théorie.
Pour Antoine Lardière, responsable de la sécurité du site, le pass sanitaire s'accompagne de son lot d'incertitudes. incertitudes.
Le plus difficile, c'est d'estimer la part de pass sanitaire non valide sur l'application Tous Anti-Covid, d'anticiper le nombre de personnes qui vont se présenter sur nos dispositifs de tests antigéniques.
Le parc propose dès aujourd'hui la possibilité de se faire tester sur place. À l'entrée, un grand chapiteau blanc. 10 infirmiers y testeront à la chaîne jusqu'à 150 personnes par heure.
Si tu veux qu'elles soient en sécurité.
Les derniers réglages sont faits par Nathan Garraud. Il travaille pour une société qui installe des dispositifs médicaux de proximité.
Les gens scannent un QR code, ils remplissent un formulaire entièrement sur leur téléphone, les infirmiers du premier état, ils vont scanner le QR code. Et en fait, elles auront une liste d'attente et ça permet de faire beaucoup plus de tests de manière sécurisée.
Chaque test réalisé sur place coûte 20 euros qui ne sont pas remboursables par la sécurité sociale. L'objectif pour le parc, contribuer à empêcher l'arrivée d'une nouvelle vague. Depuis hier, les salariés peuvent d'ailleurs se faire vacciner sur leur lieu de travail.
Reportage RTL signé Raphaël Thomas. Et notez que la Tour Eiffel va proposer elle aussi des tests antigéniques à ses visiteurs qui n'ont pas encore leur passe sanitaire. Ces tests seront gratuits pour les visiteurs français. Ce sera 25 euros pour les étrangers. Avant l'entrée en vigueur de ce passe sanitaire, sachez que plus de 200 000 personnes se sont ruées sur les avant-premières du film Kaamelott qui sort aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure, version ciné de la série culte, toujours pilotée par Alexandre Astier. Ça s'annonce comme un énorme carton. Pour l'instant, le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux publics, mais avec l'extension du pass sanitaire, on va enfin pouvoir l'enlever. C'est ce que déclarait Olivier Véran hier matin sur RTL. Une décision un peu précipitée selon certains épidémiologistes, mais le président du Haut Conseil de la Santé publique, Franck Chauvin, y est clairement favorable.
Le Haut Conseil de la Santé publique a rendu 3 avis successifs qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, on peut sécuriser probablement des espaces où les gestes barrières sont moins bien respectés, comme le port du masque, la distanciation et d'autres, à condition que dans ces zones-là, il n'y ait uniquement des personnes vaccinées et des personnes qui ont un test négatif. À partir de ce moment-là, le risque résiduel est très faible et donc le risque de contamination, voire même le risque de cas graves liés à ces contaminations, devient extrêmement faible. Donc la vaccination a cet enjeu absolument considérable qui est de nous permettre de revenir à une vie quasi normale. Et bien là, il faut absolument que l'ensemble de la population se fasse vacciner.
Franck Chauvin qui était l'invité d'RTL Soir hier avec Olivier Bois. Pour l'instant, la campagne de vaccination bat des records. 4 300 000 injections la semaine dernière, dont 1 700 000 en première injection. C'est tout simplement la plus grosse semaine de vaccination depuis le début de la campagne. L'objectif de 40 millions de premières doses devrait être atteint dès la fin de ce mois-ci, le mois de juillet. Autrement dit, avec un mois d'avance sur les prévisions du gouvernement.
Alors ce pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui et la loi qui définit son application doit être votée d'ici la fin de la semaine.
Oui, l'examen à la L'Assemblée débute ce soir. 500 amendements ont été déposés. Tout ça va très vite, hein, Marie-Bénédicte Thaler.
Moins de 24 heures entre le dépôt en Conseil des ministres du projet de loi sanitaire et son examen par l'Assemblée, du jamais vu selon l'opposition. Elle s'insurge contre cette méthode expéditive, en particulier sur un sujet qui restreint les libertés des citoyens. Alors Jean Castex essaie de déminer.
Protéger les personnes et donc les lieux auxquels il sera applicable. Préférez-vous que nous les fermions à nouveau ? Je suis sûr que non. C'est aussi l'objectif du pass sanitaire. Et je suis sûr qu'après des débats approfondis et des améliorations, vous le voterez sur tous les bancs.
Un peu plus tard, il enfonce le clou. J'attends beaucoup des débats des prochains jours. Gros clin d'œil aux députés pour leur signifier que le gouvernement est prêt à accepter des modifications. Et Jean Castex annonce aussi qu'il saisira lui-même le Conseil constitutionnel après le vote du texte, une façon de devancer l'opposition.
Marie-Bénédicte Thaler. Le gouvernement veut aller vite pour prendre de vitesse le variant Delta, si c'est encore possible. Sur les dernières 24 heures, on a enregistré plus de 18 000 nouvelles contaminations. C'est une hausse de 130% en une semaine. C'est fulgurant. En bref, dans le Val-d'Oise, 3 policiers viennent d'être mis en examen pour des violences sur un jeune homme de 19 ans. C'était en janvier dernier, lors d'un contrôle dans un hall d'immeuble à Cormeilles en Parisie. Le garçon a été frappé. Il a reçu 27 décharges de taser en 10 minutes. À noter que l'IGPN a reçu un nombre record de signalements l'an dernier, en hausse de 13% par rapport à 2019. Et puis à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, une personne est portée disparue en mer depuis hier soir. Elle pratiquait le longe-côte, elle n'est pas rentrée. Un hélicoptère et des vedettes de la SNSM ont été mobilisés sans succès. Les recherches ont été suspendues vers 20h.
On en vient à ce portrait robot, portrait de la voiture des Français en 2020.
Oui, quelle est la voiture type aujourd'hui dans l'Hexagone? L'Argus s'est penché sur la question. Résultat, Christophe Bourou.
D'abord, la bonne surprise, malgré toute l'électronique embarquée dans nos voitures,
voiture. Le prix moyen d'un modèle neuf a baissé. Il faut désormais débourser 26 789 euros. Alors certes, c'est encore élevé, mais c'est 279 euros de moins en un an. L'explication est simple, les diesels plus chers sont en perte de vitesse. Autre enseignement, nos voitures roulent moins vite. 4 km/h de perdu. Là aussi, c'est peu, mais cela traduit un vrai changement. Renault a d'ailleurs annoncé qu'il briderait la vitesse de ses voitures à 180 km/h. Cela s'est traduit également par une baisse des émissions de CO2 et de la consommation de 0,2 litres au 100, tendance qui s'accélère avec la poussée des hybrides et des électriques. Enfin, la voiture type française est une citadine polyvalente comme la Clio ou la 208, juste devant les petits SUV. D'ailleurs, la course à la grandeur, c'est du passé. Pour preuve, en un an, les ventes de monospaces ont quasiment été divisées par deux.
Christophe Bourroux, le spécialiste auto d'RTL. En Chine, près de 200 000 personnes viennent d'être évacuées de la ville de Zhangzhou dans le centre du pays. Cette métropole de plus de 10 millions d'habitants est victime de pluies torrentielles. Hier, une partie du métro a été inondée. Au moins 12 personnes s'y sont noyées. La ville est en alerte rouge. Le président Xi Jinping évoque une situation extrêmement grave, d'autant que dans la même région, un barrage menace de céder tout près d'une ville de 7 millions d'habitants. Nous parlions voiture. Avec votre voiture, vous pouvez partir en vacances direction Saint-Tropez ce matin, mais pas le Saint-Tropez bling-bling des yachts et des starlettes. Julien Fautra, vous nous emmenez sur le sentier de la citadelle sur les hauteurs du village.
Oui, à l'écart du bruit et de la fureur, à peine 10 minutes du port, et pourtant qui paraît si loin des yachts et des cocktails hors de prix.
On s'éloigne un petit peu du centre-ville, un peu trop bling-bling à mon goût. Ici, on a la vue générale et on échappe un petit peu à cette agitation.
Oui, la verdure. Ici, c'est calme, donc c'est ce qui me plaît en fait.
Le panorama est sublime, le clocher qui flotte sur le village aux murs ocre et la mer Méditerranée infinie en second plan.
On ne s'imaginait pas montant ici avoir une vue aussi belle sur toutes les baies, baie de Saint-Tropez, baie de Saint-Maxime.
Les hommes, ils ne sont pas habitués d'être enfermés. Plus nous, les Grecs, qui ont fait toujours les balades, les balades, les balades.
On redécouvre aussi, parce que souvent, le paradis chez les gens, c'est toujours ailleurs, c'est toujours loin. Et finalement, cette année, on redécouvre aussi que la Méditerranée en France, c'est très, très, très joli.
Et sous un ciel tout bleu, sans nuages, les cigales, l'odeur des pins parasols, bref, l'été, comme seule la Côte d'Azur sait le garantir.
Et c'est un Niçois qui vous le dit, pas du tout Chauvin. Julien Fautra, reportage pour RTL.
Un changement de décor, c'est Vichy pour les courses aujourd'hui.
Les pronostics de Jordan Philippi, c'est le 5, le 14, le 8, le 2, le 16, le 3 et le 7. 5, 14, 8, 2, 16, 3, 7. La dernière minute de Jordan, c'est le 2, Coubeur.
Merci beaucoup Isabelle. Toute l'actualité, c'est tout simple, c'est l'appli RTL à disposition. Bon réveil à vous tous, il est 7h12.
RTL. Un été en France.
Un été en France.
C'est la carte postale du matin qui nous est envoyée par Denis Grandjoux depuis Arcachon, où l'on peut découvrir un lieu singulier situé juste en dessous de l'office du tourisme, un bunker de l'armée allemande construit en 1943. Il fait partie du mur de l'Atlantique destiné en principe à prévenir un débarquement des Alliés. Plusieurs dizaines de blocos sont toujours debout et durant tout l'été, ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale, Denis se visite avec des passionnés d'histoire.
Oui, première étape dans ce voyage singulier où l'architecture de guerre rejoint l'histoire de France. Première étape donc dans le hall de l'office du tourisme d'Arcachon, au cœur du centre-ville de la cité balnéaire.
En fait, le bunker est encore plus bas. Il va falloir descendre pour y accéder.
Lucie Lhermitte, manager, nous fait découvrir ce blocos découvert par hasard lors de travaux d'aménagement de l'office du tourisme il y a quelques années.
Une porte blindée.
Donc le bunker, il était éclairé, ventilé, chauffé, et donc on avait l'eau grâce aux puits forés aussi.
Les lits superposés où dormaient les soldats.
Donc il y en avait d'autres ici, vous voyez les marques à ce niveau-là.
Marc Mantel est professeur dans un lycée du bassin d'Arcachon et plongeur. Il préside l'association Gramassa, le groupement archéologique de recherche du mur de l'Atlantique. Et on le retrouve dans un blocos parfaitement conservé au Teche.
La fonte fait 2 mètres d'épaisseur de béton armé. Vous avez ici des poutrelles SIPN avec des plaques d'acier de 12 mm d'épaisseur. Enfin, c'est du sérieux, quoi. On a quand même le mur de droite qui fait 3 mètres d'épaisseur en béton armé. Et vous avez une sortie de secours ici, c'est-à-dire que les Allemands pouvaient s'extirper en cas de bombardement si l'entrée était obstruée. Et là, on va rentrer dans le côté le plus spectaculaire.
Remontons à présent le bassin d'Arcachon vers la dune du Pilat pour découvrir un site incroyable, une dizaine de blocos sur une colline que nous fait découvrir Jean-Charles, membre du Gramassa.
Il y avait un bunker commandement, bunker transmission, bunker cuisine. Voyez, ici, il y avait le stockage des munitions. Il n'y a pas eu de combat ici sur le bassin. Dieu merci.
Pas de combat, mais des travaux presque pharaoniques pour construire ces monstres de béton et d'acier.
Le maître d'œuvre, c'était l'Allemagne. Les ouvriers, c'était des ouvriers, beaucoup français, voilà. Avec quel argent ça s'est fait tout ça? Il faut savoir que de 1940 à 44, le gouvernement de Vichy a versé à l'occupant plus de 630 milliards de francs. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne avec cet argent? Il a utilisé cet argent pour construire le mur de l'Atlantique. Voilà. Le moindre ciment, le moindre sable, tout ça, les ferrailles, tout ça, ça a été payé avec notre argent. Et ça, souvent, les gens sont surpris. C'était les années sombres de notre histoire.
Pour tout renseignement sur les blocos du bassin d'Arcachon, il suffit d'aller sur le site du Gramassa, GRA2MA2SA, ou celui de l'Office du tourisme d'Arcachon.
Denis Grandjou, un été en France, visite guidée depuis Arcachon. Merci à vous, Denis. 7h14. Dans un instant, nous allons à Tokyo. Nous sommes maintenant à 3 petits jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, tant attendu, à huis clos, on le sait, et dans une ambiance si particulière. On va saluer nos envoyés spéciaux qui sont sur place, qui sont connectés. Isabelle Langer, Nicolas Burnand, bonjour à tous les deux.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
On va bien comprendre avec vous, vous allez tout nous raconter. C'est pas si simple, à tout de suite.
Médaille d'or.
Prenez-vous au jeu sur RTL. RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier.
Bienvenue à vous tous, 7h16, on va prendre un petit peu d'avance ce matin car nous n'avons jamais été aussi proches de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est vendredi, Tokyo sur place, le Covid plane toujours sur l'événement à tel point que le directeur général de l'événement planétaire n'exclut pas à ce stade l'annulation des JO au tout dernier moment si la situation sanitaire s'aggravait encore plus. Nos envoyés spéciaux sont donc connectés, on va prendre le pouls avec vous, Isabelle Langer, Nicolas Burnand. Nicolas, d'abord, il faut dire aux auditeurs que dans le pays, les cas de coronavirus restent très importants.
Oui, les organisateurs des Jeux Olympiques et les autorités japonaises scrutent de près les courbes. Près de 2400 cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures au Japon. Plus de 800 cas rien qu'à Tokyo. Des chiffres qui n'avaient plus été atteints depuis la mi-avril. Et avec l'arrivée des délégations étrangères dans le pays, 67 cas de Covid ont déjà été détectés.
Alors 67 cas, parmi tous ces cas, il y a 4 athlètes qui ont été détectés au cœur du village olympique, Isabelle.
Oui, il y a un joueur tchèque de volleyball, 2 footballeurs sud-africains et un membre du staff technique de cette équipe. Tous y ont été emmenés dans un établissement adéquat de Tokyo 2020. Leurs cas contacts surtout ont été identifiés, ont fait un test PCR. Ils doivent manger dans leur chambre, s'entraîner à part et prendre des transports séparés. Le Covid, vous savez, est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque délégation et devient même pour certains un sacré handicap. J'en veux pour preuve, l'équipe de basket des États-Unis ne ressemble pas vraiment à une dream team pour le moment. 2 de ses pièces maîtresses sont restées au pays. Bradley Beal parce qu'il a été testé positif et Zach LaVine est à l'isolement par prudence. La fédération américaine n'a pas précisé si le joueur des Chicago Bulls avait contracté le Covid ou s'il était qu'à contact. Elle espère en tous les cas qu'il pourra rejoindre ses coéquipiers dans la semaine alors que les États-Unis affrontent la France. Ce sera dimanche lors du match d'ouverture du tournoi olympique.
Justement Isabelle, les athlètes français, certains sont arrivés, ils vivent tout cela comment ?
Sereinement, il n'y a pas de stress, pas de psychose, comme le disait Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleus de foot ce matin. Il faut dire que 90% des athlètes tricolores sont vaccinés. Chaque jour, ils sont testés ici. Surtout, ils respectent les règles sanitaires à la lettre et acceptent les contraintes, même si elles enlèvent tout ce qui fait habituellement la magie des Jeux. Vous connaissez cette magie, Stéphane. Vous avez vécu des Jeux Olympiques. C'est la réunion de la grande famille du sport. Une grande fête. Pendant 2 semaines, des sportifs inconnus côtoient des stars. Combien d'athlètes anonymes racontent encore des années après leur bonheur d'avoir pu discuter avec un Usain Bolt, avec un Magic Johnson, quelques minutes à la cafétéria? Bien évidemment, ils font des rencontres ici, mais comme ils portent sans arrêt le masque, ils doivent souvent regarder l'accréditation de la personne qu'ils ont en face d'eux pour voir le visage et le nom de leur interlocuteur. Le joueur de tennis Nicolas Mahut nous disait il y a quelques minutes qu'il regrettait surtout de ne pas pouvoir aller assister aux autres compétitions. Et hier, Jean-Charles Valaudon, le vice-champion olympique de tir à l'arc, nous confiait combien également il était choqué, dans le sens triste, de voir tous ces plexiglas installés au restaurant. En fait, à chaque place, il y a une boîte vitrée et chacun peut manger, certes, mais pas vraiment échanger avec son voisin, si ce n'est en élevant la voix pour se faire entendre.
C'est dingue, Nicolas, les contraintes sanitaires sont également extrêmement lourdes pour tous les autres participants.
Oui, c'est une vie quasiment carcérale, une bulle hermétique. Tout est fait pour être le moins possible en contact avec la population locale. Il y a ces hôtels accrédités par le CIO où résident les participants étrangers, dont nous les journalistes. Des reporters font leur footing dans les couloirs ou leur duplex devant l'entrée. Dans chaque hall, un garde surveille les sorties lorsque vous allez par exemple acheter le strict minimum autorisé, quelques boissons ou des gâteaux dans une supérette à proximité. À l'arrivée, une quarantaine stricte de 3 jours à l'hôtel est obligatoire, mais elle n'est pas toujours respecté par les participants. Il y a ensuite ces navettes spécialement affrétées entre les sites olympiques. C'est grâce à elles finalement que l'on découvre la capitale nippone depuis l'intérieur d'un bus aseptisé, climatisé, le visage de ses habitants sur le chemin du travail ou des enfants qui vont à l'école. À chaque étape, un bénévole japonais vous prend quasiment par la main vers un point de contrôle, un formulaire à remplir jusqu'à la salle de presse ou même les toilettes.
Et les mesures, elles ne s'arrêtent pas là, on imagine.
Et effectivement, notre position est potentiellement géolocalisée grâce à une application installée sur notre téléphone portable. Notre état de santé scruté, prise de température chaque matin et à chaque entrée de bâtiment, test salivaire obligatoire les 3 premiers jours, puis les 4 jours suivants. Il faut cracher même dans un tube en plastique et c'est franchement pas très agréable.
Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, Stéphane, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Nicolas, en une fois, il crache ce qu'il faut dans le tube. Moi, je mets 20 fois à arriver à remplir ce tube. Hein.
Je me suis entraîné. Il faut dire que les craintes des organisateurs d'être accusés après coup d'avoir été un événement super contaminateur expliquent ces décisions qui peuvent être vues par certains comme irrationnelles ou excessives. Mais c'est à ce prix que se déroulent ici ces Jeux Olympiques.
Alors Nicolas, la différence d'Isabelle, c'est votre première expérience olympique. C'est vraiment les Jeux là à Tokyo ?
C'est la seconde fois que je viens en reportage au Japon et dans les rues de la capitale, c'est franchement comme si les Jeux Olympiques n'existaient pas. Il n'y a pas de drapeau, de fanion, pas ou peu de publicité sur les écrans géants au bord des routes. Dans les vitrines des magasins, les goodies sont déjà vendus à des prix bradés. À peine quelques curieux se prennent en photo devant les anneaux du CIO à proximité du stade olympique. Il faut rappeler que les habitants de la capitale vivent sous l'état d'urgence sanitaire décrété jusqu'au 22 août prochain. Les bars et les restaurants doit fermer à 20h, la vente d'alcool interdite. Même si cela ne ressemble pas au confinement que l'on a connu en France, cela réduit forcément l'ambiance et les festivités.
Les Japonais, ils soutiennent pas vraiment ces jeux, hein.
Ouais, c'est effectivement ce qui ressort de plusieurs sondages réalisés ici ces derniers mois. Au mécontentement des opposants, c'est ajouté celui des fans qui avaient réussi à obtenir un ticket pour les épreuves. Ils devront les regarder devant la télévision. Le budget de ces jeux a également explosé. Plus de 15 milliards de dollars, les plus chers de l'histoire, dans un pays où le taux de pauvreté a bondi avec la pandémie. Alors, peu à peu, les sponsors semblent hésiter sur le comportement à adopter. Le groupe automobile Toyota a annoncé par exemple qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture vendredi. Le géant nippon a pourtant investi près de 500 millions de dollars, fourni aussi la flotte officielle de véhicules des JO. Alors, à l'origine, ces Jeux Olympiques de Tokyo devaient être ceux de la reconstruction pour la région de Fukushima, dévastée par le tsunami de 2011. Et puis, la preuve que l'humanité peut triompher du virus, ces symboles sont désormais relégués au second plan. La priorité des organisateurs, sous la pression du Comité international olympique, et désormais de maintenir coûte que coûte cet événement.
Ah ouais, c'est ça Isabelle, hein, maintenir coûte que coûte.
Oui, à commencer par la cérémonie d'ouverture qui est habituellement regardée par plus de 10 millions de téléspectateurs. Vendredi, il n'y aura pas de public au stade, mais tout de même 1 millier d'officiels parmi lesquels l'empereur du Japon, mais aussi Emmanuel Macron. Le président de la République fait le déplacement, notamment pour renforcer les liens de la France avec le pays du soleil levant. Et vendredi, protocole sanitaire oblige, eh bien c'est dans une loge individuelle que le chef d'État passera toute la cérémonie d'ouverture. Je peux vous dire que lui qui aime bien papoter avec les autres dirigeants va sans doute trouver le temps long.
Hein. Et on suivra l'événement bien sûr avec vous Isabelle Langer, Nicolas Burnan, nos envoyés spéciaux au Japon, à Tokyo. Il y a combien de décalage horaire précisément ?
Rappelez-nous. 7h, là il est 14h30 pour nous. Hein.
Merci pour la précision Isabelle Langer, Nicolas Burnan. On vous retrouve régulièrement dès le coup d'envoi de ces Jeux Olympiques, c'est vendredi. Normalement, si tout va bien, la cérémonie d'ouverture. Dans un instant, la musique, on va se régaler encore avec la pépite d'Anthony Martin. C'est le bonheur au réveil, à tout de suite.
D'ici à 9h, vous serez peut-être l'un des gagnants du grand jeu RTL de l'été. Pour vous inscrire, il vous suffit d'appeler le 3210, 50 centimes par minute, ou d'envoyer RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. À gagner 1000 euros cash, mais également des smartphones, des tablettes, des week-ends thalasso ou des vacances en famille. Bonne chance.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
C'est l'instant, le bonheur est dans les oreilles avec Anthony Martin pour la pépite musicale. Bonjour à vous Anthony.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On vous écoute.
Alors on va faire un tour dans un album sorti en avril dernier qui a pour titre Homme Studio. Cet homme, c'est Henri Salvador. Il fut un des premiers artistes à avoir son propre studio d'enregistrement à domicile dans une pièce de son appartement de la place Vendôme à Paris. Pendant 5 ans, de 70 à 75, Henri Salvador a composé, bidouillé, fabriqué des chansons seul avec ses boîtes à rythme, ses micros, ses 12 guitares, ses synthétiseurs et sa console faite sur mesure, devenant ainsi un artiste indépendant, idée visionnaire de sa femme Jacqueline, qui trouvait le système trop injuste. Ses créations artisanales étaient musicalement audacieuses pour l'époque. Ce qui est fou, c'est qu'on trouve aussi bien une critique au vitriol de la société, une parodie de Johnny Hallyday, qu'un morceau coquin ou qu'une chanson de sur Mickey, puisque Salvador était alors en contrat avec Disney. Et c'est pour l'album Pinocchio qu'il avait repéré ce morceau américain. Shame, Shame de Shirley et compagnie en 74. Dans son studio sous les toits, Henri Salvador et ses machines a adapté ce titre. C'est notre pépite du jour. Salvador chante « J'aime tes genoux ». Ça groove d'enfer.
Ah ouais, d'enfer. Ah ouais. Je vois les gens au volant en ce moment en train d'écouter ça.
Et on dirait qu'ils sont plusieurs autour d'Henri Salvador, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ouais. Il avait fait toutes les voix et les avait mixées, superposées façon millefeuille sonore, tout seul, tout ça réalisé seul. C'est une des créations faites maison qu'on trouve dans la compilation Home Studio d'Henri Salvador.
Pépite musicale d'Anthony Martin. On va la voir pour la journée, ça va faire notre bonheur toute la journée, ça. Remplissent leur mission, nous faire rire les grosses têtes de Laurent Ruquier dès 15h30 cet après-midi avec le meilleur de la saison et une histoire drôle de Gueluc.
C'est trois types qu'on doit évaluer parce qu'on pense qu'ils sont un petit peu pas bien dans leur tête, en faisant un truc, un psychiatre qui les... Ah, et donc il demande au premier, il dit 2 x 3 et l'autre répond 415. Ah bon, ok, bon, mais très bien, je vois un peu de quoi il s'agit. Puis il prend le suivant, il dit vous 2 x 3 et l'autre dit mercredi prochain. Ok. Bon, très bien, je vois un peu le genre de votre cas. Et il va chez le troisième, il dit 2 x 3, 6, répond le mec. Ah, mais il dit comment vous avez fait? Ben, il dit j'ai divisé mercredi prochain par 415.
Les grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. En podcast jour et nuit via l'appli RTL. 7h28, merci de nous rejoindre, Marina. Le ciel, avec quoi la Bretagne?
Oui,
hein, c'est ça.
Plus de 30 degrés.
Mais non.
Hier, c'était le cas. Ce sera le cas encore aujourd'hui. Hier, on a eu 32 degrés à Saint-Ségal, par exemple. C'est dans le Finistère. On a eu 32 degrés aussi à Sarzeau, dans le Morbihan. Et à Brest, 31 degrés. On aura 31 à Brest aujourd'hui. Et normalement, demain, si ça arrive, eh bien, ça n'était jamais arrivé 3 jours de suite.
D'accord.
À plus de 30 degrés à Brest au mois de juillet. C'est arrivé au mois d'août, mais c'était en 1990. Donc, température extrêmement chaude cet après-midi, vous l'avez compris. Et forcément aussi ce matin avec les températures qu'on a eues hier. Mais cet après-midi, on attend encore 26 à 36 degrés, 27 pour Lille, 28 à Reims. Vous aurez 30 degrés à Paris et à Grenoble, ainsi qu'à Bordeaux. 31 donc à Brest, 32 à Bastia et à La Rochelle, 33 à Marseille, 34 à Toulouse. Le 36, ce sera pour Nîmes. Côté ciel, du grand soleil sur quasiment tout le pays. On a toujours ces habituelles entrées maritimes. Donc ces nuages apportés par le vent vers l'Aquitaine. Ça va même jusqu'au Gers. Ça va généralement se dissiper. Puis dans l'après-midi, on continue avec le soleil. Quelques passages nuageux, quelques ondes possibles en montagne. Mais pour les orages, ce sera seulement et enfin de façon localisée pour les Alpes du Sud, les Pyrénées et le relief Corse. Et puis on a toujours 4 départements en vigilance orange crue. L'Aisne, les Ardennes, la Marne et l'Oise.
Marina Giraudeau qui vous dit tout le matin sur la météo, bien sûr. Bienvenue à vous tous. Il est pile 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 21 juillet.
À l'heure d'une actualité anxiogène, on commence avec une bonne nouvelle et le carnet rose qui devrait bientôt se remplir aux zoo de Beauval. Un nouveau bébé panda devrait voir le jour puisque la femelle Yuan Yuan est enceinte. C'est ce qu'a confirmé une échographie. Rodolphe Delors est le directeur du zoo de Beauval.
Il va naître d'ici une dizaine de jours seulement. Nous faisons des analyses pratiquement quotidiennement. Nous allons pouvoir définir précisément la date de l'accouchement. Il y aura minimum un bébé, mais parfois des jumeaux. C'est totalement possible qu'il y ait deux bébés. Mais pour le moment, nous n'en avons vu qu'un seul à échographie. Il est tout petit et à sa naissance, ce n'est de toute façon qu'un embryon qui mesure une dizaine de centimètres seulement. Ce sera la deuxième naissance d'un panda en France, 4 ans jour pour jour, vu que Wanman, notre tout premier bébé panda, est né le 4 août 2017. Notre Wanman qui a pour marraine la première dame Brigitte Macron.
Le directeur du zoo de Beauval, joint par Pierre Collat. Pour le moment, la maman n'a qu'une envie, selon ses soignants, c'est de dormir et de manger. Et justement, pour vous rendre au zoo de Beauval, il vous faut dès aujourd'hui un pass sanitaire. Il entre en vigueur dans les lieux de culture et de loisirs, comme les théâtres, les cinémas ou encore les salles de sport. Une contrainte de dernière minute, mais une contrainte nécessaire, selon Patrick Mazereau, le patron d'Apart Fitness qui gère une centaine de salles en France.
Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un coup de massue. Mais le coup de massue, c'est plutôt de savoir que l'incidence de la pandémie est en train d'exploser et qu'il faut absolument l'endiguer. Donc moi, je demande une vraie solidarité à l'intégralité de nos adhérents en disant « acceptez s'il vous plaît, pour votre sécurité, pour votre santé et pour venir faire du sport, de présenter votre fameux téléphone portable avec le QR code du pass sanitaire ». C'est pas compliqué.
Mieux vaut ça, tout sauf la fermeture.
Mais bien sûr. Bien sûr, la fermeture serait une catastrophe. Moi, je pense surtout aux adhérents. Entraînez-vous, faites du sport, soyez en bonne santé.
Le patron d'Apart Fitness avec Frédéric Perruche. Alors, on le rappelle, en résumé, le pass sanitaire, c'est un test négatif de moins de 48 heures ou un certificat de rétablissement du Covid ou évidemment un certificat de vaccination.
La vaccination, justement, et surtout celle des soignants, au menu à l'Assemblée cet après-midi.
Avec les débats sur le projet de loi qui démarre, alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais une chose est sûre, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, de plus en plus de soignants se font vacciner. Écoutez le témoignage d'Alexandra. À 32 ans, elle est infirmière libérale à Épinal et a finalement décidé de recevoir une injection, mais a quand même songé à quitter son métier pour y échapper.
Pas le choix. J'ai une maison à payer, j'ai des charges tous les mois qui tombent, j'ai mon URSSAF, donc c'est pas des centaines d'euros, hein, ça se compte en milliers d'euros par mois. Clairement, si je travaille pas, j'ai rien. On a l'ARS hein, qui nous surveille, donc je peux pas continuer à exercer sans être vaccinée. Hein. J'ai pensé à arrêter d'être infirmière et à changer de vie. Maintenant, est-ce que je fais une formation? Ma formation sera pas prise en charge. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Enfin, on a quand même le poids de l'argent qui revient dans la balance, malgré tout. Je regrette mes choix d'études.
Le témoignage d'Alexandra recueilli par Dimitri Ramelot. Alors certes, il y a toujours des récalcitrants à la vaccination, mais elle bat des records depuis la semaine dernière. 4,3 millions de doses injectées en 7 jours. C'est la plus grosse semaine depuis le début de la campagne à Gatlandais.
Oui, et c'est d'abord très net si l'on regarde les prises de rendez-vous. Ces 7 derniers jours, 520 000 Français prenaient rendez-vous chaque jour en moyenne contre 140 000 par jour début juillet. La vaccination du personnel soignant a aussi bien augmenté, en particulier dans les EHPAD. Ils sont désormais 63% à avoir reçu une première dose contre seulement 55% il y a un mois. On note aussi un gros succès du vaccin chez les ados avec désormais un quart des 12-17 ans qui a reçu sa première dose alors que les ados ne peuvent se vacciner que depuis mi-juin. Tous ces chiffres sont très encourageants mais ils doivent encore s'amplifier car les contaminations elles aussi augmentent fortement. 32% des majeurs et 20% des plus de 50 ans ne sont toujours pas vaccinés.
Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
Un chiffre, Hortense, 26 milliards de dollars, c'est ce que s'apprêtent à débourser les quatre géants américains du médicament.
Et cela dans le cadre d'un accord avec l'État de New York. Ces sociétés sont soupçonnées d'avoir largement contribué à la dépendance de ceux qui consommaient leurs antidouleurs à base d'opioïdes. Avec 500 000 morts en 10 ans, les produits ont causé une vraie crise sanitaire dans le pays, Karine Hotten.
Oui, des millions d'Américains ont pris l'habitude d'avaler ces antidouleurs, sur conseil de leur médecin d'abord, puis ensuite parce qu'ils avaient développé une véritable dépendance. Ces médicaments à base d'opioïdes sont de vraies drogues. 130 personnes en meurent par jour en faisant des overdoses. C'est le principal fléau des pouvoirs publics et des autorités sanitaires ici. Alors forcément, les États, les comtés, les municipalités ont rétorqué. Leurs agents de police et leurs hôpitaux sont très souvent mobilisés. Cela a fait exploser les budgets. Hier, cet accord de 26 milliards de dollars, 22 milliards d'euros que vont débourser trois distributeurs et le laboratoire Johnson & Johnson. C'est le premier global du genre établi avec plusieurs dizaines de pouvoirs publics. Ils évitent ainsi de s'affronter au cours de 1000 procès plus modestes et ces fonds leur permettront de financer des campagnes de prévention et des programmes de désintoxication.
Karine Hutton, correspondante de RTL aux États-Unis.
Le football, le championnat de Ligue 1 ne démarre que le 6 août, mais le mercato d'été, lui, est bien en route.
C'est le cas notamment au Paris Saint-Germain, après Sergio Ramos ou encore le tout juste champion d'Europe et gardien italien Donnarumma. Paris ne compte pas s'arrêter là. Le prochain objectif, c'est le milieu de Manchester United, Paul Pogba. Et les négociations avancent bien, Quentin Vasselin.
Oui, le champion du monde souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain. Le recrutement XXL du club de la capitale aurait convaincu Paul Pogba. Les échanges existent entre Mino Raiola, l'agent de l'international français, et Leonardo, le directeur sportif parisien. Le PSG déboursera entre 50 et 70 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de Pogba à Manchester. En cas de signature, le milieu de terrain natif de région parisienne pourrait devenir le troisième plus gros salaire du club derrière Neymar et Mbappé si ce dernier accepte de signer sa fameuse prolongation de contrat. Si Paul Pogba est proche de quitter Manchester, un autre tricolore fait le forcing pour rejoindre les Red Devils. Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, souhaiterait quitter l'Espagne pour découvrir la Première Ligue avec Manchester United.
Quentin Vasselin du service des sports de RTL. Enfin en basket, la NBA et les Milwaukee Bucks qui remportent le second titre de leur histoire en s'imposant à domicile face aux Phoenix Suns, 105 à 98.
C'est complet, c'est signé Hortense Crépin, le Tout Info. Merci Hortense, l'appli RTL pour toute l'actualité quand vous le souhaitez. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
L'Angle Écho dans un instant. On va parler d'Europe et du plan de relance historique qui se déploie depuis un an.
Oui, vous imaginez une grande famille de 27 personnes, ce sont tous les pays de l'Union Européenne. Ils ont accepté de s'endetter tous ensemble. C'est déjà un exploit, mais ensuite il va falloir rembourser tout cet argent. Et là, ça promet des réunions de famille bien agitées.
Le décryptage à suivre avec Anaïs Bouissou, 7h37, à tout de suite.
RTL Matin. Toujours avec vous. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
L'Angle Écho avec Anaïs Bouissou. Il y a un an tout pile, le 21 juillet 2020, les 27 pays de l'Union Européenne s'accordaient, Anaïs, sur un plan de relance historique, un deal à 750 milliards d'euros pour s'endetter en commun et financer l'après-crise. Un an après, où en sommes-nous ?
Un an après, on peut dire que ça avance plutôt bien. En France, notre première enveloppe européenne va bientôt arriver. Plus de 5 milliards d'euros, c'est une question de semaine, hein, qui permettront notamment de financer des rénovations énergétiques à grande échelle et la numérisation des très petites entreprises.
Et donc vous nous dites que ça avance bien ?
Oui, parce qu'il faut savoir que ce plan de relance, c'est l'équivalent d'une immense horlogerie qui s'est mise en route à 27, avec 27 petits rouages à coordonner, 27 situations nationales différentes, des endettements plus ou moins élevés, des taux de pandémie variables et des contextes politiques parfois tendus. Parvenir à cranter tous ces petits rouages, même si ce n'est pas toujours à la seconde près, même avec quelques retards, c'est déjà un exploit.
Ça veut dire quoi ? Que c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe ?
Ah non, c'est une première. Et au bout d'un an, sur 27 pays, 12 ont définitivement cranté leur plan et l'argent qui va avec, avec les débats, les votes nationaux que ça implique, plus les validations à l'échelle de l'Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne notamment, ça représente déjà 75% des sommes à verser. Pour le reste, 15 autres plans sont sur le point de se concrétiser avec des validations attendues dans les prochains jours et à la rentrée. Et il ne reste finalement qu'une inconnue, c'est le plan de relance de la Hongrie, pour des raisons politiques, un non-respect des droits humains et fort penchant pour tout ce qui ressemble à de la corruption.
Et ça, c'est pas grave que certains plans de relance ne soient pas encore tout à fait bouclés ?
Non, pas pour les autres pays, en tout cas. La France, l'Allemagne, l'Italie et les autres toucheront, quoi qu'il arrive, leurs aides européennes, peu importe la situation hongroise. Ces fonds seront débloqués tous les ans, par étapes, pays par pays, jusqu'en 2026. Avec des résultats très concrets. En France, l'argent permettra par exemple d'équiper des écoles en ordinateurs. Il sera déployé pour former et accompagner les jeunes sur le marché du travail. Il permettra des travaux dans les logements sociaux, dans les hôpitaux pour les trains ou encore d'investir dans l'hydrogène vert.
Alors, vous nous avez parlé de 750 milliards d'euros. Ce budget de l'Europe, il ne sort pas de nulle part.
Non, l'Europe a accepté de s'endetter. Et bien sûr, si on s'endette en commun, il faut bien rembourser tous ensemble. C'est l'étape qui a le moins avancé depuis un an. Pour récolter de l'argent, l'Union européenne doit trouver de nouvelles ressources, inventer des taxes communes. Deux prélèvements sont notamment en cours de réflexion. D'abord une taxe carbone pour faire payer plus cher les entreprises polluantes. Et la deuxième, c'est une taxe sur les entreprises du secteur numérique, une sorte de TVA nouvelle génération. Cette taxe a tellement déplu aux États-Unis qu'elle est mise sur pause jusqu'à l'automne. Alors il reste un peu de temps à l'Europe pour se constituer des ressources, quelques années d'ici 2028. C'est ce que les plans de remboursement prévoient. Mais effectivement, après avoir réussi l'exploit de s'endetter en commun à 27, il reste la moitié du chemin à parcourir, c'est-à-dire rembourser aussi à l'aide de règles communes. C'est cette clé-là, très complexe à forger, qui permettra à l'immense rouage européen de continuer de tourner sans se gripper.
Voilà, les choses sont claires avec Anaïs Bouissou, l'angle éco de ce mercredi matin, 7h41. Bienvenue à vous tous. Dans un instant, l'invité de RTL Matin, le sénateur Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, pour parler logiciel espion, crise sanitaire et primaire LR où les places sont chères avec à l'horizon la présidentielle 2022. A tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h42, il est sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau est donc en direct en studio, notre invité ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
D'abord, cette affaire d'espionnage XXL en première page de tous les journaux ce matin, avec des photos du président Macron portable collé à l'oreille. Macron dans la ligne de mire du Maroc, Macron ciblé, le chef de l'État visé par le logiciel israélien Pegasus qui pirate les téléphones avec le Maroc qui serait commanditaire. Que le président français et 14 ministres de son gouvernement de l'époque 2019 soient ciblés, est-ce que c'est grave ?
Bien sûr que c'est inadmissible de la part d'un pays ami. Mais franchement, ceux qui viennent de le découvrir sont de grands naïfs. Aujourd'hui, tout le monde espionne tout le monde. Et il y a fort à parier que la France espionne aussi un certain nombre de pays. Je voudrais simplement vous rappeler que M. Obama avait, par l'intermédiaire de la NSA, espionné Mme Merkel. Je voudrais simplement vous rappeler que les États-Unis avaient aussi espionné trois présidents de la République successifs. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Donc ça, c'est un fait. Arrêtons de penser qu'on vit dans un monde de bisounours. Le seul changement, c'est que désormais, on a des logiciels qui sont extrêmement pointus et qui sont à la portée de tous les pays. Donc, il faut qu'on se protège. Et moi, au moment où on se parle, j'espère que le chef d'État a mis de côté son téléphone qui n'est pas sécurisé, parce que ça n'est pas le téléphone sécurisé qui a été l'outil de l'espionnage. C'est l'autre téléphone. Et avec ce logiciel, ce qui est terrible, c'est que vous déclenchez à distance, y compris le micro du portable. Donc vous entrez dans le bureau d'Emmanuel Macron, qui est en train de discuter, par exemple, avec Angela Merkel, et vous pouvez capter l'ensemble de la conversation. Donc, il ne faut pas être naïf, et donc, c'est une question de sécurité nationale, et je demande que les moyens soient pris au plus haut niveau de l'État pour refermer justement cette fenêtre d'amateurisme.
Justement, les moyens, c'est quoi ? Comment on se protège de tout ça aujourd'hui ?
Vous ne vous protégerez pas à 100%, mais vous pouvez vous protéger, d'ailleurs, l'exemple montre. Il a deux téléphones. Ce que je sais, peut-être vous m'en direz plus, c'est que ça n'est pas le téléphone sécurisé qui a subi Pegasus, le logiciel espion, c'est l'autre téléphone. Donc il y a un certain nombre de béaba qu'un responsable de haut niveau comme il l'est, président de la République, doit prendre et doit appliquer. Ce n'est pas une question de caprice. Quand on est président de la République, on ne peut plus choisir la façon dont on vit, évidemment, parce qu'on ne s'appartient plus. Tout devient une question de sécurité nationale.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a été naïf là-dessus ?
En tout cas, je pense qu'il y a une imprudence, bien sûr. Il y a sûrement une imprudence.
Le Maroc dément, assure ne pas être un utilisateur de Pegasus. En même temps, ils ne vont pas dire oui, c'est vrai. On est d'accord. Si c'est avéré que le Maroc est derrière cette affaire, ça veut dire qu'il faudra revoir notre politique vis-à-vis de ce pays ami, comme vous dites ?
Faudra s'expliquer. Mais encore une fois, si vous coupiez toutes les relations diplomatiques avec ceux qui vous écoutent, vous finiriez tout seul. Tout seul, y compris vis-à-vis de nos grands alliés. Je citais l'exemple des États-Unis il y a quelques instants qui ont espionné la France, peut-être l'espionnent-ils toujours, et l'exemple des États-Unis de M. Obama qui espionnait Mme Merkel.
On s'espionne tous, donc entre alliés aussi.
Et on va toujours plus loin dans
bien
ce qu'on
sûr,
découvre.
Bien sûr, le problème aujourd'hui, c'est que les technologies, un, sont de plus en plus performantes, et deux, elles sont à la portée de tous, en tout cas d'un très grand nombre d'États, et de petits États aussi, d'États beaucoup plus faibles. C'est la raison pour laquelle il faut absolument redoubler de vigilance et de prudence, et je pense qu'il y a un certain nombre de décisions, d'ailleurs, qu'a pris le gouvernement depuis un certain nombre de mois. Il faut qu'en matière de cyberattaque, on rehausse énormément le niveau de protection pour la France, pour bien entendu nos dirigeants d'abord, mais aussi pour notre économie.
Emmanuel Macron, toujours lui, Bruno Retailleau, et ses contraintes sanitaires et quotidiennes face à la quatrième vague, face au variant Delta, la vaccination obligatoire, le pass sanitaire pour tout ou presque, est-ce qu'il a eu raison?
En tout cas, je vais vous dire, quand je voyais les... Je vais vous répondre. Je pense, pour vous répondre tout de suite, que pour ce qui concerne le pass sanitaire, c'est sans doute la moins mauvaise solution. Le pire, c'est à nouveau des couvre-feux, à nouveau des confinements, avec une jeunesse qui décroche, avec des problèmes notamment psychiques et une économie qui s'effondre. D'accord. Simplement, on voit qu'on est à l'aube d'une nouvelle épidémie. J'ai entendu d'ailleurs les chiffres du ministre de la Solidarité et de la Santé. 150% de progression du virus. Pratiquement 20 000 cas lundi dernier. Donc, on est vraiment dans une flambée épidémique. Il faut se protéger. La vaccination pour tous, c'est un moyen brutal. Très peu de pays le font d'ailleurs. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Kazakhstan. Très peu, parce que c'est vis-à-vis de notre liberté des uns et des autres un peu contraignant.
Vous seriez pour vous ?
Non, je n'ai jamais. Il faut vraiment l'éviter parce que je pense que ça fracturera la France. Je vais vous dire ce qu'on pourrait faire. J'en reviens sur le pass sanitaire. Pas question de l'accepter tel que. Ça doit être un pass sanitaire, c'est-à-dire une incitation à la vaccination. Ça a plutôt bien marché. Puisque beaucoup de Françaises et de Français se sont précipités dans les centres de vaccination. Le problème, c'est qu'il faut des vaccins. Dans le Doubs, il n'y en a plus, ce qui est terrible. Donc attention. Mais surtout, ça doit être juste et proportionné. Juste, par exemple, ceux qui répondent à l'appel d'Emmanuel Macron de se faire vacciner ne pourront pas, dans le délai, dans le calendrier que prescrit la loi, être prêts. Ils auront la primo-vaccination. Donc il faut peut-être un pass provisoire pour en tenir compte. Il faut que ça soit proportionné. Écoutez, on ne va pas mettre sur les restaurateurs, sur les bistrotiers, des sanctions pénales. Des sanctions, oui, mais pas des sanctions pénales. De même qu'il faut faire attention. On peut quand même, en plein air, notamment sur les terrasses, pouvoir prendre un café, etc., sans avoir de passe. Donc je pense que tout ça doit être des mesures d'équilibre dans l'application, vous voyez. Et éviter ce qu'on a connu jadis, et il n'y a pas très longtemps, l'absurdistan. C'est-à-dire la bureaucratie qui nous met des règles qui sont trop pesantes et qui sont surtout souvent inefficace.
Bruno Retailleau, le projet de loi qui instaure ces nouvelles mesures, il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Demain, ce sera chez vous au Sénat. Hein. Ça va très vite.
Plus
est-ce que
demain,
ça va pas trop vite
vendredi.
Oui, j'imagine que ça va vous occuper. C'est une bonne loi selon vous, sur sa globalité, et est-ce que vous allez y apporter des amendements?
Ah, on ne la votera pas telle que. Je l'ai dit, oui, au pass sanitaire, non, un pass arbitraire. Donc, on va proposer de nombreux amendements sur les délais, sur les sanctions, pour tenir compte du bon sens, parce qu'il faut que les gens puissent avoir les délais, notamment la possibilité de correctement l'appliquer. Et puis, on saisira avec le groupe centriste au Sénat, nous saisirons ensemble le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse bien s'assurer au bout du bout que cette loi-là, telle qu'elle aura été votée, ne méconnaît pas les garanties en termes de liberté publique. Ça sera vraiment une garantie qu'on veut donner, nous, le Sénat, aux Français, c'est fondamental. Vous me disiez si c'est trop rapide. Le problème est la gestion chaotique du gouvernement. Il n'y a jamais eu d'anticipation. Depuis 18 mois, sur l'affaire des masques, sur l'affaire du dépistage. Et aujourd'hui...
Là, en même temps, le Delta, il est arrivé non, très très vite quand même.
Non. Faux. On avait l'exemple. On avait plusieurs exemples, et notamment un exemple outre-Manche, avec un à deux mois d'avance sur nous. On ne peut pas déclarer... Enfin, les déclarations à la fin du mois de juin, vous vous rendez compte, c'est il y a quelques semaines, de triomphalisme, pour qu'ensuite on verse dans le catastrophisme. C'est ça que je reproche. Et malheureusement, vous voyez... cette confiance, et on a besoin de la confiance pour que les Français se fassent vacciner, elle a été érodée. Elle a été érodée sur l'affaire des masques, sur l'affaire du dépistage. Et elle a été érodée lorsque on dit le pass, ça va être utile uniquement pour des grosses jauges et pas du tout dans les actes de la vie quotidienne. Et on se contredit après. Donc c'est un affaiblissement de la parole publique. C'est ça qui est grave, cette gestion chaotique, cette gestion qui est aussi parfois conflictuelle. Quand le porte-parole du gouvernement, dans Le Parisien, déclare que on y a deux Frances, en réalité. Une frange qui serait une frange capricieuse et puis plus ou moins complotiste, ça n'est pas son mot, mais en tout cas il dit capricieuse. Et puis une frange, et défaitiste il dit, et une autre frange qui serait la France qui serait laborieuse et qui serait volontariste. Vous ne pouvez pas opposer les Français comme ça, vous ne pouvez pas insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec des compatriotes qui pensent que, sans doute légitimement, ça blesse leur liberté personnelle. Vous ne pouvez pas les insulter.
Vous les soutenez, ces Français-là, qui manifestent ?
Non, je ne les soutiens pas, mais je ne les injurie pas. Je les respecte. Et je leur dis, je me suis fait vacciner dès que j'ai pu. Je me dis que se faire vacciner, ce n'est pas seulement se protéger, c'est protéger les autres. Cette épidémie a montré que nous sommes liés profondément les uns aux autres. Moi, je suis attaché à la liberté. Vraiment, je le suis. En revanche, je considère que le pire de tout, c'est le confinement, c'est de tout laisser aller. On peut quand même se faire vacciner, d'autant plus qu'il y a 3 milliards d'êtres humains. On a du recul suffisant. Au départ, je le comprends. Aujourd'hui, on a le recul. Donc, si on veut tous ensemble résister, bien, il faut que chacun d'entre nous prenions nos responsabilités. Et enfin, vous me posiez la question, est-ce que vous êtes OK pour une vaccination obligatoire ? Ouais. J'y suis pas favorable. En revanche, vous avez aujourd'hui 30% de gens qui, par exemple, sont obèses, qui ont des comorbidités, qui ne sont toujours pas vaccinés. Vous avez près de 20% des plus de 80 ans, plus de 10% des plus de 70 ans. Là, il faut que les médecins puissent aller... Là, il y a vraiment un travail, si j'ose dire, chirurgical pour les convaincre. Parce qu'une fois qu'on aura vacciné les personnes les plus fragiles, même si on a une épidémie qui se propage, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts et de cas graves.
Alors, cette crise sanitaire, elle n'en finit pas. Le chef de l'État disait qu'on en a encore jusqu'à 2022 pour quelques mois l'an prochain. Elle sera au centre de la campagne présidentielle, cette crise. Le scrutin pour l'Élysée, c'est dans moins de 10 mois. Est-ce que vous vous sentez, vous, Bruno Retailleau, l'âme d'un candidat ?
Oui, pas que moi, mais nous sommes plusieurs sur cette ligne de départ. Ce que je sais, en tout cas, c'est que la France est à droite, que beaucoup de Français partagent nos convictions, veulent nos solutions. On a gagné les 4 dernières élections municipales, sénatoriales, les 2 élections régionales et puis départementales. Donc, les Français veulent une alternance. Ils veulent pas du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, nous, on a une responsabilité. Le problème à droite, souvent, c'est que notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont nos divisions. Donc, on essaie de les traiter. On essaie de les régler.
Et justement, vous êtes rassemblés hier dans un hôtel parisien, je pense, hein, c'est ça, avec plusieurs leaders des Républicains. Pourquoi tout ce grand mystère ? Il n'y avait pas de caméra ? Pourquoi organiser tout ça ?
Non, mais parce que dans une réunion, quand vous voulez discuter librement, vous devez le faire à l'abri des caméras. Il ne doit pas y avoir de voyeurisme. On n'a rien à cacher.
Et vous avez discuté librement, alors, du coup ?
Franchement, oui. Ouais. Et franchement, je vous le dirais, en toute sincérité,
vraiment.
Moi j'étais surpris, et heureusement surpris, de la réunion d'hier, parce que j'ai vraiment senti une volonté d'unité. Je pense que chacun... Il y avait Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse,
Gérard Larcher, voilà. Michel Barnier, vous.
Voilà, il y avait Philippe Juvin. Voilà. Donc on était 5 candidats potentiels. Et puis Jean Leonetti, Christian Jacob et Gérard Larcher.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde qui veut se lancer dans la bataille ? Est-ce qu'il n'y a pas de candidats intéressés comme
on
vous,
a des talents. Non mais bien sûr, on a des talents. C'est justement la raison pour laquelle, pour ne pas se diviser, parce que le pire de tout, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle nous sert de primaire. Moi j'ai une solution depuis des mois et des mois. Je pense que quand il y a une incertitude et que personne tue le match, alors faut le vote. On ne peut pas déplorer d'un côté les abstentions records qu'on a eues au régional et ne pas vouloir faire participer les gens. Qui a peur d'un vote ? Je pense qu'il faut une confrontation franche, loyale, qui soit aussi le moment de l'explication autour d'un projet, des convictions. Les Français ne veulent pas, vous savez, d'une droite à l'eau tiède. Je crois qu'ils ont soupé. La droite, parfois, dans le passé, les a déçus.
On n'a pas cité, de vous couper Xavier Bertrand encore.
Parce qu'il n'a pas voulu venir hier, c'est dommage.
Il est dans la course, lui.
Bien sûr qu'il est dans la course.
En tant que LR ou en tant que représentant de la droite ?
Non, il a quitté LR. Je considère qu'il fait partie de la famille de la droite et du centre, évidemment. Et si on doit avoir une primaire au mois d'octobre ou novembre prochain, il faudra que ce soit non pas une primaire strictement réservée à LR, mais une vraie primaire ouverte qui donne un élan pour celui qui va gagner, mais surtout qui donne l'occasion de faire une équipe de France. Hier, ce que j'ai ressenti, moi, c'est qu'il y a une équipe de France. Il y a des talents et on est capable de travailler ensemble et on partage des convictions qui sont assez communes.
On peut avoir Xavier Bertrand et un candidat LR. Ça serait trop,
ça serait terrible. Mais on pourrait en prendre le chemin. Demain, si on a des primaires, ceux qui voudront s'y soumettre. Ils étaient autour de la table hier. À ce moment-là, il y aurait un champion et il y aurait deux candidats. C'est pas possible. Donc je dis à Xavier Bertrand que la présidentielle, c'est pas une course en solitaire. Et vous savez, on le voit avec Emmanuel Macron.
C'est ce que vont lui dire aujourd'hui Christian Jacob.
Bien sûr. Gouverner, on peut pas gouverner seul. Regardez l'exemple d'Emmanuel Macron. Il a été élu seul. Ok, ça lui a profité. Mais après, ce sera un des présidents de la République qui aura le plus déçu, qui aura sans doute un des bilans les plus faibles, parce qu'il a été trop seul. Et même quand on est, comment dirais-je, talentueux, très intelligent, seul, on ne peut pas redresser un pays.
Bruno Retailleau était l'invité de RTL Matin. Merci à vous, bonne journée.
Merci
7h56, dans un instant, Cyprien Signy avec les Pourquoi de l'été. À tout de suite.
RTL, les Pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
Il n'y a pas de petite, il n'y a pas de mauvaise question. La preuve, Cyprien répond à tout.
Virginie, 46 ans. Pourquoi on a plus chaud en noir qu'en blanc ?
Bon, alors d'abord, vous habillez un peu comme vous voulez, hein, ça c'est vous qui choisissez. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, que quand le soleil est au zénith, vous avez tendance à plus le sentir avec un t-shirt foncé qu'avec un t-shirt clair. Tout cela n'est qu'affaire de longueur d'onde. Les couleurs ne réfléchissent pas la lumière de la même façon. Le noir absorbe les rayons infrarouges du soleil et stocke la chaleur. Le noir absorbe même 90% de l'énergie qu'il reçoit. Donc le t-shirt noir risque effectivement de se transformer en véritable plaque de cuisson quand il est exposé au soleil, car évidemment l'énergie du soleil se transforme en chaleur, alors que le blanc, lui, réfléchit tout le spectre lumineux. Il repousse tous les rayons infrarouges, un peu comme une armure. En revanche, à la différence du noir, il laisse passer les rayons UV, donc danger de maladie de peau. Donc a priori, c'est simple, le noir absorbe, le blanc repousse. Une expérience menée par des chercheurs israéliens explique très bien ce phénomène. Ils ont placé deux robes similaires en plein soleil, une noire, une blanche, température extérieure 38 degrés. Au bout de quelques minutes, la robe blanche affichait une température de 41 degrés, alors que la noire affichait 47 degrés. La réponse semble donc évidente. Sauf que, c'est un peu plus compliqué que ça, car si le noir absorbe l'énergie solaire, il en rejette aussi beaucoup plus, alors que le blanc, il absorbe trois fois moins de lumière, certes, mais il en rejette aussi trois fois moins. Or, dans cette affaire, ce qui compte le plus finalement, c'est l'aération, la circulation de l'air entre la peau et le vêtement. Et avec la transpiration, l'air qui passe entre le vêtement et le corps se rafraîchit et crée une sorte de climatisation 100% naturelle et extrêmement bienvenue. Preuve que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.
Cyprien Signy qui répond à toutes les interrogations. Marina, du coup, aujourd'hui, on s'habille en blanc parce qu'il va faire chaud.
On peut ne pas s'habiller du tout. Hein. Il va faire vraiment très chaud.
Mais vous serez où alors? Ça m'intéresse.
36 à Nîmes. On aura 34 à Toulouse, 33. Non, j'aurais mieux fait de me taire. 31 à Brest, 30 à Paris et à Lyon, 28 à Strasbourg, 27 à Lille, 26 à Biarritz. De la chaleur et du beau temps. On a quelques entrées maritimes en Aquitaine. Ça va jusqu'au Gers, mais ça va se dissiper. Quelques nuages sur l'ouest des Hauts-de-France, mais c'est pas bien méchant. Et puis partout ailleurs, du soleil, soleil que l'on va garder cet après-midi. Quelques nuages en montagne, massif central, Jura, ça pourrait tourner à l'orage pour les Alpes du Sud, les Pyrénées et le relief Corse. Quatre départements toujours en vigilance crue, encore des débordements hein, vers l'Aisne, les Ardennes, la Marne et l'Oise.
Voilà Marina qui ne s'habille pas aujourd'hui, je note donc votre adresse personnelle, je vous écoute.
Non, je dis un peu n'importe quoi parfois, vous savez.
Ah bon, parfois.
Oui,
Marina Giraudeau vous accompagne pour le ciel. Bon réveil à vous tous, gardez le moral, gardez le sourire, ça fait du bien, il est 8h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet pour toute l'actualité de ce mercredi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, la folie Kaamelott.
Après la série, le film sort aujourd'hui au cinéma. Chronique d'un carton annoncé, 200 000 personnes avaient réservé pour les avant-premières. Le cinéma, c'est désormais avec passe sanitaire, comme tous les lieux de culture et de loisirs. La quatrième vague épidémique monte à vitesse grand V. On peut craindre de nouvelles restrictions. À suivre également Emmanuel Macron, ciblé par le logiciel Pegasus qui permet d'espionner les portables. Et puis, les Jeux Olympiques de Tokyo avec une belle histoire de jumeaux, les Dacosta, deux karatékas, mais un seul dans la course aux médailles.
RTL Matin.
Cela fait des mois, des années même qu'on l'attendait. Enfin, il arrive. Kaamelott, le film, le livre 1 sort aujourd'hui au cinéma. Alexandre Astier toujours aux commandes, devant et derrière la caméra. À ses côtés, Alain Chabat, Christian Clavier, Audrey Fleurot, Antoine Decaune, Guillaume Gallienne et j'en passe. La série sur M6 rassemblait jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. Des fans aujourd'hui très très impatients, Martin Zuber.
Dès qu'on aborde la sortie du film Kaamelott avec Maxime, le jeune homme de 24 ans est tout de suite excité.
Oh là là, que d'excitation. Déjà, on l'attendait depuis super longtemps. Il a été repoussé 30 fois. On n'avait pas de date claire. Et là, quand la date est tombée, 21 juillet, en plus, j'ai mon pass sanitaire. Donc vraiment, ça se goupille parfaitement. Moi, je suis persuadé qu'on ne sera pas déçu.
Et Maxime a hâte de retrouver un personnage en particulier.
Le personnage de Christian Clavier dans Kaamelott.
C'est parti. Bravo, alors c'est très constructif.
Le jury consulte est très très rigolo. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis très content de le voir dans un film, dans la durée, etc. Parce qu'on l'a pas tant vu que ça dans la série.
Paola, fan inconditionnel de la série, elle se prépare depuis plusieurs semaines.
J'ai regardé toutes les interviews d'Alexandre Astier comme une énorme malade. Et j'ai regardé 5 fois le trailer.
Comment ça se passe, cette petite résistance ?
Pour essayer de repérer des choses en avant-première. J'ai rien repéré.
Après 12 ans d'absence, Emeline espère que Kaamelott revient en accordant plus de place pour ses rôles féminins.
J'attends de voir si ils vont réussir à prendre un peu le cap de la modernité, dans le sens où t'as un grand personnage femme, c'est Guenièvre, et sinon les autres, c'est ses maîtresses, enfin, c'est vraiment des personnages vraiment secondaires. Du coup, je me dis, est-ce que ça va être quelque chose d'un peu plus féminin ? Est-ce que son écriture a changé, en fait ?
Ces trois passionnés promettent d'aller voir le film dès aujourd'hui et puis d'y retourner sûrement plusieurs fois.
C'est vrai que ça fait envie, quoi.
Mais ça fait envie, reportage RTL signé Martin Zuber. Un désir, je vous le disais, 200 000 personnes se sont ruées sur les avant-premières.
Et face à ce carton et cette sortie, on écoutera avec bonheur tout à l'heure Alexandre Astier, justement, et Guillaume Gallienne, et ils seront avec Stéphane Boutsock dans Laissez-vous tenter à 9h moins le quart. C'est l'effet Kaamelott, Isabelle, mais peut-être aussi l'effet passe sanitaire.
Oui, hier encore, pour aller au cinéma, il fallait juste avoir son billet et son masque. À partir d'aujourd'hui, il faut aussi avoir son QR code au cinéma, au théâtre, dans les salles de sport, les parcs d'attractions. Un coup de pression pour encourager la vaccination, mais il est peut-être déjà trop tard. Le variant Delta se propage de façon exponentielle. 18 000 nouveaux cas hier, plus 130% en une semaine. C'est du jamais vu, dit le ministre de la Santé. Et c'est dans ce contexte que se tient ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire. De nouvelles restrictions ne sont pas exclues, William Galibert.
Oui, l'inquiétude remonte aussi vite que les courbes de contamination. Des moments difficiles attendent notre pays. Nous allons devoir aller vite, a même avoué Jean Castex hier devant des députés. Aller vite, est-ce que ça veut dire de nouvelles restrictions ? Possible, probable même d'après de nombreux élus, mais c'est la piste de restrictions locales qui tient la corde. Dans les centres-villes de Toulouse ou de La Rochelle par exemple, le port du masque en extérieur est déjà redevenu la règle. Ce retour du masque pourrait encore s'étendre à de nouvelles zones. Faut-il aller jusqu'à réinstaurer des couvre-feux ? On doit voir au plus près du terrain, avec les maires et les préfets, ce qui sera le plus efficace, explique un ministre. C'est dans cette ambiance qu'Emmanuel Macron va devoir trancher ce matin. Et c'est le Premier ministre qui dévoilera les derniers arbitrages en expliquant que le gouvernement n'a pas d'autre choix tant que la vaccination n'a pas assez progressé.
William Galibert du service politique d'RTL. Et bonne nouvelle justement, la campagne de vaccination repart comme jamais. 4 300 000 injections la semaine dernière, dont 1 700 000 en première injection. C'est un record. Pour encourager ce mouvement, la ville de Lille a installé des centres de vaccination provisoires dans ses quartiers populaires. Pas besoin de rendez-vous. L'opération a démarré hier dans le quartier de Fives et c'est un vrai succès, Franck Hanson.
Dès l'ouverture, la file d'attente s'allonge devant le centre de santé du quartier Fivois. Des habitants qui ne viennent pas forcément de bon cœur pour cette piqûre.
Peut-être mettez pas la dose qu'il fait, mettez un tout petit peu moins, j'en sais rien.
Non, je c'est fait, mais je vous dis, par contrainte. Hein. Sinon, je peux pas aller faire mes courses, je peux pas tout ça. Qu'est-ce que je vais faire ?
Pour pouvoir aller en vacances et pour pouvoir fréquenter les bars.
On a attendu 2 heures, mais ça a été...
Parmi les vaccinés, des parents avec leurs ados, des soignants ou des jeunes qui n'ont pas eu de rendez-vous sur Internet.
On n'a rien senti, tout va bien.
On aurait fini par être sûrement obligé de le faire et j'avais envie de continuer à sortir et faire des tests tout le temps, c'est un peu
lourd.
Ouais.
C'est une protection aussi.
Bah, je suis aide-soignant en gériatrie, donc si je vais être payé et garder mon travail, il valait mieux faire vacciner. Puis mes seuls hobbies, c'est le cinéma et me balader en grande surface. J'ai tenu au maximum, mais bon, là, comme c'était sans rendez-vous, je suis tenté ma chance.
Pour la ville de Lille, en collaboration avec l'hôpital, ces centres de vaccination de proximité répondent à une vraie demande, souligne l'un des adjoints, Jacques Richir.
Tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde n'a pas d'Octolib. Le fait de se déplacer pour les vacciner, c'est pas toujours simple. Alors que là, on est au plus près des quartiers, dans des lieux que les personnes connaissent bien. Dans ces quartiers, on a constaté que les taux de vaccinés étaient les plus faibles. C'est également malheureusement les quartiers dans lesquels il y a eu le plus de cas de Covid.
Et l'opération va se poursuivre jusqu'en août pour les deuxièmes doses. Elle pourra être renforcée si besoin.
Franck Hanson à Lille pour RTL. Et pendant ce temps, la loi qui impose la vaccination entame son parcours parlementaire. Elle doit être débattue dès ce soir à l'Assemblée. Environ 500 amendements ont été déposés.
Dans les Alpes-Maritimes, Isabelle, la chasse à l'homme s'est terminée hier tragiquement.
200 gendarmes étaient mobilisés pour retrouver un homme soupçonné d'un féminicide. Son corps a été découvert à la mi-journée dans une zone escarpée. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un suicide ou d'une chute accidentelle. À Nantes, un commissaire divisionnaire vient d'être mis en examen pour homicide involontaire après la mort de Steve Maya Canisso. Le jeune homme était tombé dans la Loire après une intervention de police pendant la fête de la musique il y a 2 ans. A noter que l'IGPN a reçu un nombre record de signalements l'an dernier, en hausse de 13% par rapport à 2019. La population se plaint notamment d'un usage excessif de la force, d'un manque de respect et aussi des refus de prendre une plainte.
8h06, bon réveil à vous tous. Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer. Avec un mouchard à l'Élysée, le portable d'Emmanuel Macron aurait été espionné.
RTL Matin.
La suite du journal avec Isabelle Choquet. Emmanuel Macron a-t-il été espionné sur son téléphone portable? Une enquête est ouverte.
Enquête car on a appris hier que le président figurait sur la liste des personnes ciblées par le logiciel Pegasus, un mouchard utilisé par certains États officiellement pour lutter contre le terrorisme, en réalité pour surveiller des politiques et des journalistes. En ce qui concerne la France, c'est le Maroc qui serait le commanditaire, Christophe Decroix.
Oui, d'après nos confrères du Monde, l'un des numéros du président aurait été sélectionné par un service de sécurité de l'État marocain. Le but, un éventuel piratage pour écouter ou aspirer certaines données du téléphone présidentiel. À l'heure qu'il est, ce téléphone d'Emmanuel Macron n'a pas été examiné. On ne sait donc pas s'il a été infecté, mais son numéro aurait bien été une cible possible. NSO, l'entreprise israélienne fabriquant le logiciel Pegasus, et le Maroc, pays client, démentent avoir utilisé ou ciblé le président français. Une enquête est en cours et si cela se révélait finalement vrai, la France pourrait considérer qu'il s'agit d'un acte hostile, une affaire gênante entre deux pays amis qui collaborent dans de nombreux domaines comme par exemple le terrorisme. Des comptes pourraient également être demandés à Israël qui protège l'entreprise NSO. À cela s'ajoute le fait que les numéros d'Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, et de 14 autres ministres seraient également dans cette liste. Et même s'il s'avérait qu'il n'y a pas eu piratage, cela voudrait dire que cela a été envisagé. De quoi pourrir les relations diplomatiques.
Christophe Decroix du service étranger d'RTL. La Chine, confrontée à des inondations meurtrières, des pluies diluviennes s'abattent sur le centre du pays. 12 personnes sont mortes noyées dans le métro de la ville de Zhangzhou. La commune est en alerte rouge. 200 000 personnes ont été évacuées. Dans la même région, un barrage menace de rompre. Une brèche de 20 mètres est apparue dans la structure. Il peut céder d'un instant à l'autre, c'est ce que disent les autorités militaires.
Nous partons maintenant à Tokyo. Isabelle, J-2 pour les Jeux Olympiques.
Et même si les épreuves, elles, ont déjà commencé avec un match de softball qui s'est joué symboliquement à Fukushima. Les Jeux Olympiques, c'est une grande aventure sportive, mais aussi une aventure humaine. Exemple avec le karatéka Steven Dacosta. Il doit s'envoler pour le Japon lundi prochain pour un dernier stage de préparation. Isabelle Langer, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Tokyo. Ce qui est particulier, c'est que Steven Dacosta sera accompagné de son frère jumeau, Jesse, qui sera son partenaire d'entraînement.
Vous savez, le sport est souvent une histoire de résilience. Jesse Dacosta en est la preuve. Comme son jumeau, il fait du karaté, mais lui n'a pas réussi à décrocher son billet pour Tokyo. Pour autant, ne lui dites pas qu'il fait preuve de beaucoup d'abnégation dans ce rôle de partenaire d'entraînement.
Moi, je suis quand même content d'y aller pour Steven, parce que voilà, ça va être une ambiance spéciale. Donc en plus de ça, s'il est tout seul pendant 2 semaines avant sa compétition, c'est un peu rude pour l'esprit. Au moins, ces petits moments de détente et de relâche, on pourra les faire ensemble.
Et le programme est souvent le même.
Regarder quelques films. Après, là, j'aurais pas le droit de sortir de l'hôtel, mais sinon, ils me demandent d'aller chercher à manger souvent.
À la fin du stage, Steven intégrera le village olympique pour la compétition. Jesse, lui, prendra l'avion pour rentrer en France. C'est devant la télévision, en famille à Mont-Saint-Martin, qu'il suivra les combats de son jumeau, en espérant qu'il revienne avec la plus belle des médailles.
Ça sera une réussite pour nous tous et une fierté pour nous tous. Mais le champion, ce sera lui. La médaille, ce sera la sienne. Ce sera lui sur le tatami. Moi, entre guillemets, j'aurais juste été son poutine ball pendant la préparation. Ça reste son histoire à lui et pas la mienne.
La belle histoire des frères Dacosta racontée par Isabelle Langer, envoyée spéciale d'RTL aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Et vous avez toute l'actualité à disposition sur l'appli RTL. Isabelle, à tout à l'heure, 9h, bien sûr, sur notre antenne. Il est 8h11.
RTL. Présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
À 10 petits mois de la présidentielle 2022, RTL vous propose des rencontres avec d'anciens candidats à l'Élysée. Pour comprendre cette étape décisive, la déclaration de candidature dans le lancement d'une campagne. C'est une étape qu'a connue Jean-Marie Le Pen 5 fois dans la course avec le temps fort de 2002, son accession au second tour. L'ex-leader FN a ouvert ses portes à RTL et en particulier à vous, Marie Mollet.
Oui, Jean-Marie Le Pen est un candidat à la présidentielle à temps plein, ou presque. 5 tentatives, pas une vocation, dit-il, plutôt un cheminement naturel. Assez tôt, il s'est senti taillé pour la fonction.
Je me suis toujours senti capable, comme d'autres, d'être président de la République et même sans doute meilleur, du moins je le pensais. Ça datait même de mon enfance. Quand il y avait des jeux, j'étais un petit chef de bande. J'avais une certaine facilité, un certain don de commandement, d'organisation, d'entraînement. Je ne me suis jamais senti dépassé par la fonction. Mais non, je ne me suis pas senti désigné par le ciel. Ça m'aurait peut-être aidé d'ailleurs à marcher, mais bon, j'ai marché sans ça. À travers les ronces, les buissons, les embuscades, les difficultés de la route, c'est la guerre, c'est le combat, c'est la lutte.
Une lutte débutée en mars 1974.
Française, Français.
Jean-Marie Le Pen est encore l'homme au bandeau, le pirate. Il se lance pour la première fois dans l'arène.
Si vous pensez qu'il faut changer de politique, si vous voulez un État fort et juste, alors votez Jean-Marie Le Pen, votez Salut Bibi.
Celui qui apparaît sur les écrans de télévision n'est pas un inconnu. Depuis près de 20 ans, déjà, les Français connaissent ce tribun, ce rhéteur. Ancien député poujadiste, il vient d'être catapulté à la tête du tout jeune Front National. Pour lui, en 1974, l'Élysée est intouchable, Jean-Marie Le Pen le sait parfaitement, mais il y voit là une formidable occasion de gagner en notoriété et d'attirer argent, militants et cadres.
La campagne présidentielle, ça n'intéresse pas seulement le vainqueur, ça permet des recrutements, des sélections, mobiliser des militants, vous y acquérez des relations, vous y acquérez de l'expérience, construire le mouvement, c'était pas évident. Quand on part ex nihilo de rien, c'est un travail immense. Mais dans le fond, qu'on accomplissait comme la respiration.
Pour sa première campagne, Jean-Marie Le Pen ne fera pas de miracle dans les urnes. 0,74% des voix. Qu'importe, le FN s'est fait une place dans le paysage politique et son leader n'a pas l'intention d'en rester là. Ses courses à l'Élysée, il les a partagées, imposées à sa famille sans jamais lui demander son avis. Au gré des campagnes, il ouvre en grand les portes de son appartement parisien à la presse, exalte ses racines bretonnes dans sa maison de la Trinité où il met en scène sa femme et ses filles.
À partir du moment où je suis le chef d'un parti politique, et je sais que ça va avoir des conséquences pour ma famille, pour mes enfants. Et en quelque sorte, c'est un destin collectif. Ces 3 filles ont assumé le risque que leur père leur faisait courir, mais aussi l'honneur d'avoir pour père quelqu'un dont on parlait, qui était un peu une vedette aussi.
Est-ce que y a des gens à ce moment-là qui essayent de vous décourager ?
Personne n'a osé.
Personne n'a osé, pas même ses ennemis. Qui aurait pu l'en dissuader ?
Vanitas, vanitatum, et omne vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité.
Une candidature à la présidentielle aussi ?
Toute action humaine, quelle qu'elle soit.
À 93 ans, Jean-Marie Le Pen n'est pas homme à exprimer de regrets. Sauf un, celui de ne pas avoir été candidat à la présidentielle encore plus tôt, dès l'élection de 1965.
Le jour où j'ai dit oui, les focus sur les candidats du passé à la présidentielle avec Marie Mollet ce matin du service politique de RTL. 8h15, on vous souhaite à vous tous la bienvenue. On va parler du pass sanitaire désormais obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les lieux de culture et de loisirs qui rassemblent plus de 50 personnes. Ça concerne les piscines, les cinémas, les musées, les théâtres, les festivals, les parcs à thème ou encore les parcs d'attractions. Nos invités sont connectés. On détaille tout cela juste après ceci. On leur pose la question toute simple. Est-ce qu'ils sont prêts ?
Passez un bel été sur RTL. RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier.
On va aller plus loin tous ensemble ce matin à 8h18, consacré ce rendez-vous au pass sanitaire désormais obligatoire, vous le savez, pour les lieux de culture, de loisirs qui rassemblent plus de 50 personnes. Alors ça concerne les bibliothèques par exemple, les cinémas, les musées, les théâtres, les festivals, les parcs d'attractions. On en parle en direct avec nos invités. D'abord Richard Patry, le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français qui est connecté. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour, et vous, merci, bonjour à tous.
Vous serez accompagné de Nicolas Devilliers, qui est le directeur du Puy du Fou en Vendée. Bonjour Nicolas Devilliers.
Bonjour.
J'aurais commencé avec Richard Patry, parce que quand on a appris tout cela, vous qui êtes le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, ce sont tous les cinémas, hein, 6200 salles, vous étiez fou furieux quand même, non ?
Oui, parce que si vous voulez, on a appris ça il y a une semaine, quoi. Donc, comment voulez-vous mettre en place, les cinémas, ça accueille 3 millions de personnes par jour, par semaine. Mmh. Comment voulez-vous mettre en place un tel barnum en une semaine avec un week-end férié au milieu? Et ce qui nous a beaucoup énervé, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire que, encore une fois, les salles de cinéma sont républicaines, elles jouent le jeu, elles ont joué le jeu pendant toute la pandémie, elles ont accompagné l'action du gouvernement pour envoyer des messages, et puis là tout d'un coup on nous dit dans une semaine vous devez appliquer une mesure que d'autres appliqueront plus tard parce qu'il va falloir une loi pour le faire, et c'est ça qui nous a énervé. C'est pas la mesure en elle-même que l'on peut comprendre, il faut combattre cette pandémie absolument et on est tous d'accord avec ça. Ce qui nous a énervé, c'est le fait que les salles de cinéma, les lieux de culture, on avait une semaine pour le faire, et puis les restaurants et les autres lieux, les transports, etc., et bien eux ils auraient 3 à 4 semaines pour se mettre en place. Ça veut dire que ça donnait l'impression que c'était plus dangereux d'aller au cinéma que d'aller au restaurant. Eh bien non, c'est pas dangereux du tout d'aller au cinéma. Il n'y a pas eu un cas de contamination depuis le début de la pandémie dans un cinéma.
Ouais, c'est important de le rappeler. Une semaine après, on imagine, Richard Patry, la colère est un petit peu redescendue. Est-ce que du coup, vous êtes organisé ? Est-ce que vous êtes prêt du coup ?
Eh ben écoutez, on va faire ce qu'on va pouvoir, on va faire de notre mieux, on s'est organisé effectivement, mais c'est énormément de contraintes, c'est très compliqué. Vous savez, aujourd'hui sort un très gros film français, un excellent blockbuster français qui s'appelle Kaamelott. Il y a des cinémas à la séance de 14h, le Grand Rex à Paris, ils ont déjà vendu 1200 billets. Moi je reviens au Festival de Cannes, le pass sanitaire était en place au Festival de Cannes, un agent vérifie à peu près 160 personnes à l'heure. Ça veut dire que pour vérifier les 1200 personnes du Grand Rex, il faut 7h30 à un agent. Vous pensez pas que les gens vont commencer à venir au Grand Rex dès ce matin pour rentrer à la séance de 14h? Nous, c'est 1200 personnes. Le Grand Rex, il doit les faire rentrer en moins de 15 minutes. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas été pensé. Comment vous recrutez 50 agents? Comment vous achetez 50 terminaux pour essayer de faire passer ça? Donc oui, on va essayer de faire le mieux. Et heureusement, le gouvernement nous a dit que nous allions tester un peu, que nous allions être en période de rodage. Heureusement, en tous les cas, on va faire nos meilleurs efforts, comme on dit, pour essayer d'être prêts. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Par exemple, on ne contrôle pas les jeunes. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette barrière des 50. Donc, dans les cinémas où il y a des plus petites salles, eh bien, il n'y aura pas de passe sanitaire. S'il y a moins de 50 personnes dans la salle, on restera rentré. On va faire des efforts. On va tout faire pour tester les choses et pour faire que ça se passe le mieux possible. Mais c'est très, très compliqué à mettre en place.
On l'imagine bien. Nicolas Devilliers, je me tourne vers vous, directeur du Puy du Fou. Vous êtes habitué à accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes prêt? Comment vous avez réussi à vous organiser?
Bah écoutez, nous on a eu la chance d'une certaine façon parce que le Puy du Fou a deux entrées. Il y a le parc, mais il y a aussi un autre spectacle qui s'appelle la Cinécénie et qui fonctionne comme un festival avec sa propre billetterie. Et de cette façon-là, nous avons pu éprouver une organisation, un dispositif qui est fluide et qui permet aujourd'hui d'étendre le pass sanitaire non seulement à cette Cinécénie, c'est-à-dire ce spectacle unique avec sa billetterie, mais aussi au parc comme ça nous est imposé à partir d'aujourd'hui. Donc notre organisation, elle est éprouvée, elle permet à nos visiteurs accéder de façon simple, facile au parc avec toutes les contraintes que votre interlocuteur précédent vient d'évoquer. Eh bien, heureusement, nous avons pu nous préparer. Donc, nous sommes prêts et nos visiteurs peuvent venir au Puy du Fou sans être vaccinés puisque leur passe sanitaire, ça n'est pas simplement la preuve d'un vaccin, ça peut être le test PCR, test antigénique. Et puis, en plus, on a mis en place un centre de test sur le site même du Puy du Fou, ce qui permet, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, bien de l'obtenir en venant au Puy du Fou.
Pour réussir tout ça, il a fallu recruter du personnel.
Bien sûr, il a fallu recruter beaucoup de gens, il a fallu former des équipes. Donc on a travaillé en main dans la main avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Et de cette façon-là, nous avons pu former des équipes de façon extrêmement rapide. Ça, c'est une vraie contrainte qui nous est tombée dessus déjà au mois de juin, puisque nous savions que le pass sanitaire était imposé dès le 1er juillet pour un site comme justement celui de la Cinécennie.
Quid du masque, comment ça se passe sur vos sites? Faut le porter, pas le porter, pour qui?
Le décret, en fait, qui est tombé le 19 là, juillet, nous dit que le masque, à partir du moment où vous présentez un pass sanitaire, le masque ne serait plus obligatoire. Donc nous attendons que ça soit bien confirmé par les textes, mais au plus du fou, eh bien, on va malgré tout le recommander en extérieur et le garder obligatoire dans nos théâtres intérieurs pour éviter toute ambiguïté. Mais il est vrai que le décret nous dit maintenant que le masque, à partir du moment où vous avez présenté votre pass sanitaire, n'a plus de caractère obligatoire, ce qui serait une bonne nouvelle pour le confort de tous, je le crois.
Richard Patry, je reviens vers vous pour les cinémas. Masque ou pas masque dans les salles obscures ?
Écoutez, on va prendre la même position que celle que Monsieur de Villiers vient d'exposer, c'est-à-dire qu'on va recommander à nos spectateurs de garder le masque pour l'instant pour lever un peu toute cette ambiguïté. D'autant que nous, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'on aura dans la même salle des spectateurs qui ont le pass sanitaire et des spectateurs qui ne l'ont pas, puisque les moins de 18 ans n'ont pas à fournir un pass sanitaire. Donc, si vous voulez, il y a une vraie ambiguïté à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est très difficile de dire à des gens vous pouvez enlever le masque et vous pouvez pas l'enlever parce que vous êtes exonéré du pass sanitaire, puisque rappelons-le encore, le pass sanitaire n'est nécessaire que pour les plus de 18 ans dans les lieux de plus de 50 personnes. Donc voyez-vous, c'est assez compliqué, donc on va faire comme au Puy du Fou, c'est-à-dire on va recommander à nos visiteurs de garder le masque pendant la séance. Ils le font depuis le début de cette pandémie, depuis le début de la réouverture, et ça n'a pas posé de problème, ils ont respecté cette consigne sans aucun problème.
Richard Patry, je voudrais savoir comment vous allez gérer la chose suivante. Un groupe de copains, 10 copains de 20 ans par exemple, qui arrivent tous ensemble pour aller voir Kaamelott aujourd'hui. S'il y en a un qui n'a pas son pass sanitaire, qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez ça?
Eh ben écoutez, on va essayer de gérer la situation au mieux. Malheureusement, nous, on peut pas mettre un barnum avec un barnum de test devant chaque cinéma. Hein. Il y a plus de 2000 lieux, et puis il y a des fois, c'est des lieux qui ne nécessitent pas, enfin qui ne pourraient pas prétendre à avoir une équipe comme ça. On va beaucoup parler, on va essayer de dire, on va essayer de se mettre d'accord avec la pharmacie d'à côté pour leur dire, allez vite faire un test antigénique, ça prend un quart d'heure, etc. On va négocier, et je ne vous garantis pas que aujourd'hui, on laissera pas passer les gens. Encore une fois, le gouvernement nous a demandé de faire nos meilleurs efforts et comprend que nous sommes en rodage. Eh bien, on va tester, on va regarder. On a la chance que le cinéma fonctionne. Si vous voulez, c'est une chance pour nous. Hein. Le cinéma fonctionne en France. Les gens aiment le cinéma, ils reviennent au cinéma. Et en plus, on a des blockbusters français qui arrivent. On va essayer de tout faire pour accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on va s'adapter. On va regarder comment ça se passe aujourd'hui. Et puis, on va continuer à discuter avec nos interlocuteurs au gouvernement pour essayer d'adapter un petit peu la situation. De toute façon, la loi va évoluer puisque dans 15 jours, il y aura une nouvelle loi qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement. Donc cette expérience, au minimum, on va nourrir la représentation nationale pour leur dire toutes les difficultés qu'on rencontre et essayer d'améliorer autant un temps soit un peu la loi.
Nicolas De Villiers, directeur du Puy du Fou. En année normale, entre guillemets, sont près de 2,5 millions de visiteurs. Le Puy du Fou, c'est ça. Est-ce que vous redoutez avec tout ça une baisse de fréquentation ?
Bien sûr qu'on est un peu inquiet parce qu'on ne sait absolument pas les conséquences que le pass sanitaire va avoir véritablement sur ce qu'on appelle la fréquentation dans le métier, c'est-à-dire le nombre de visiteurs. Surtout que le mois d'août est un mois décisif, vous savez, dans le tourisme. Donc c'est un mois clé. Maintenant, nous voyons au Puy du Fou que les réservations sont excellentes, que nos visiteurs qui sont habitués à réserver avant de venir peuvent s'organiser en amont. Et on leur conseille d'ailleurs de s'organiser aussi sur la question du test PCR, même si on leur propose un test possible sur place. C'est vrai que la plupart de nos visiteurs viennent déjà munis de leur passe sanitaire lorsqu'ils arrivent à nos portes. Et ça, cette chance-là, eh bien, elle nous permet peut-être d'aborder ce mois d'août avec un peu de sérénité. Voilà, maintenant, nous regardons ça comme le lait sur le feu, mais on voit bien que les visiteurs seront vraisemblablement au rendez-vous de cette saison malgré cette contrainte-là. Tout le monde a compris que c'était une contrainte qu'il fallait maintenant faire entrer dans les mœurs, si je puis dire. Donc, prenons-la avec bonne humeur et en essayant de faire en sorte que tout ça soit fluide.
Et au-delà des spectacles, est-ce qu'ils font un pass aussi pour les bars, pour les restaurants, pour les hôtels de vos sites, là ?
Eh bien, la force d'un site comme le Puy du Fou, c'est que lorsque vous y entrez et que vous passez le contrôle, justement, et là où le pass sanitaire est contrôlé, vous êtes ensuite libre de vos mouvements, puisqu'on vous donne un bracelet, nous, au Puy du Fou. Ce bracelet change de couleur chaque jour, et même parfois plusieurs fois par jour, pour que nos équipes puissent repérer nos visiteurs grâce à la couleur du bracelet. Et ce bracelet permet d'accéder aux restaurants, aux bars, aux hôtels, etc., librement, puisque vous avez été contrôlé une seule fois. C'est l'avantage de ce pass sanitaire unique pour plus de liberté à l'intérieur des 150 hectares de nature du Puy du Fou.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés les auditeurs, bien sûr. Nicolas Devilliers, directeur du Puy du Fou en Vendée. Richard Patry, merci, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Merci et bon courage pour tout cela. Dans un instant, les grosses têtes et le ciel de Marina. A tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
La touche bonne humeur des grosses têtes sur RTL, c'est 7 jours sur 7, 15h30, 18h. 2h30 de plaisir autour de Laurent Ruquier et par exemple Ariel Dombal.
Mais enfin, je rêve d'un espèce de petit robot qui va fatalement arriver. Non mais les Japonais ont maintenant des petites compagnes robots, robotisées.
Ah oui. Voilà.
Gracieuses comme tout, ravissantes, qui leur font des compliments toute la journée et tout ça.
Ah c'est ça, t'es en manque de compliments. Ton mari, il est toujours sur les routes, c'est pas facile. Oh.
Non, c'est pas
facile. Elle en manque d'amour, Ariel.
Vous avez un routier.
Alors moi je dirais...
Est-ce que vous pourriez tomber amoureuse des gardes du corps de votre mari?
Vous savez, moi, je ne suis amoureuse que de mon mari.
Oh, et de son chat, sa chatte.
Mais non, mais bien sûr que j'ai un chat que j'adore qui s'appelle Little Sam.
Ah, voilà,
Little
Sam.
Vous voyez déjà, on voit bien deux personnalités différentes. Il s'appelle comment le mot?
Little Sam.
Voilà, le mien s'appelle Pompon.
Laurent Ruquier vous donne rendez-vous à 15h30 avec ses grosses têtes sur RTL et nulle part ailleurs. Le temps, tout va bien, Marina?
Ah oui, tout va bien. Encore du soleil, de la chaleur, conditions anticycloniques pour la chaleur. Cet après-midi, comptez 26 à 36 degrés. Il fera 27 à Lille, 28 à Strasbourg, 30 à Paris et Lyon, 31 attendu à Rennes, 32 à Bastia, 33 à Marseille, 34 à Toulouse. Avec donc du soleil, les quelques nuages qui sont présents là de l'Aquitaine au Gers vont se dissiper. Ensuite, le soleil va dominer. Et puis, comme souvent en montagne, un petit risque d'averse sur le Jura, le Massif central. Averse parfois orageuse pour le relief corse, les Alpes du Sud et les Pyrénées.
Voilà le programme météo avec Marina Giraudeau. Il est 8h31.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et un point sur l'actualité avec Hortense Crépin.
Cinéma, théâtre, musée, salle de sport, autant de lieux dans lesquels il va falloir présenter votre pass sanitaire à partir d'aujourd'hui. L'examen du projet de loi le concernant démarre cet après-midi au Parlement. Pas question de l'accepter tel quel, ça doit être juste et proportionné, selon le chef des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, invité tout à l'heure sur RTL. Et c'est dans ce contexte que le pays a enregistré un record des hausses de cas de contamination au Covid, plus 130% en une semaine. Dans le même temps, la vaccination s'accélère avec 4 300 000 injections la semaine dernière, du jamais vu depuis le début de la campagne vaccinale. Le Maroc conteste son implication dans l'affaire Pegasus, alors qu'Emmanuel Macron, mais aussi des membres et ex-membres du gouvernement, pourraient avoir été la cible du logiciel espion sur leur smartphone. L'enquête doit démarrer. Toute la lumière sera faite sur ces révélations, promet l'Élysée. En Chine, près de 200 000 personnes évacuées après des intempéries. À Zhangzhou, dans le centre du pays, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie en 3 jours. 12 personnes sont mortes dans un métro inondé. Le président chinois Xi Jinping parle d'une situation extrêmement grave. Et puis à 2 jours de la cérémonie d'ouverture, le coup d'envoi des épreuves des JO de Tokyo cette nuit avec la rencontre de softball, le baseball féminin à Fukushima, remporté par le Japon face à l'Australie. Demain, entrée en lice de la France avec nos footballeurs qui affronteront le Mexique.
C'est Hortense Crépin qui vous a tout dit en ce mercredi matin.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Le face-à-face, rencontre et confidence avec des personnalités pour parler de cette vie Covid. Hier, aujourd'hui, demain, comment ont-elles, comment traversent-ils cette période hors norme et au fait, c'est quoi l'avenir? Ce matin, entretien avec l'écrivaine Maëlys de Kerangal.
Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien ce matin.
Est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme?
Là, c'est une période de reprise. On a le sentiment que tout recommence, que tout revient. Après, je pense que rien ne sera jamais comme avant. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre sera marqué, secoué par cette année 2020. Puis moi, je crois qu'aussi, plus, sur un plan plus personnel, c'est beaucoup ces questions de fragilité et de maîtrise qui m'intéressent.
À votre niveau personnel, individuel, vous l'avez ressenti comment, cette fragilité?
Moi, j'avais commencé un roman, ce que je pensais être un roman. Et c'est vrai que bien que les écrivains sont souvent, on l'a pu le dire, finalement des gens assez confinés, c'est un peu leur état de nature. Moi, je dois dire qu'il était hors de question de continuer à écrire comme si de rien n'était. Et j'ai plutôt retrouvé un rythme de travail début mai. Et là, j'ai recommencé à écrire et c'est devenu voilà, ce recueil de nouvelles, cette espèce de roman en pièces détachées, Canoë.
Justement, Canoë, donc vous disiez que c'était à la base un projet de roman, c'est un recueil de nouvelles. Ce côté fragmenté, vous l'attribuez en partie à la situation qu'on a vécue ?
Alors, j'ai pas mal réfléchi à ça, parce que évidemment, je trouve ça intéressant de mettre en rapport, évidemment, les périodes où l'on écrit les textes et les textes eux-mêmes. Hein. Pour Canoë, ce que je me suis raconté, c'est que c'est des textes avec l'idée de sonder la voix humaine. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que je mets directement en rapport avec cette période, dans la mesure où le virus attaquait les poumons, mais aussi, vous voyez, il se passait là, je montre mon plexus solaire. Et ensuite, il y avait l'idée que les voix des autres, dont les corps nous étaient retirés d'une certaine manière, les autres étaient présents, advenaient par leur voix. Notamment ces grandes conversations, ces très longues conversations téléphoniques que moi j'ai pu avoir pendant cette période.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre.
Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous choisiriez lequel ?
Je pourrais dire peut-être une secousse totale en fait et très fondamentale qui fait que quand même tout est remis en cause et je pense que ça crée une telle rupture.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain ?
Alors, je pense que ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier, c'était un certain rapport au temps. Je pense que le rapport au temps a complètement changé. Je veux dire, la question du temps et de l'espace-temps, vous voyez, c'est-à-dire un lieu, un espace, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on vit. Ce que le Covid nous apprend, c'est qu'on doit réinterroger nos pratiques, une injonction à penser nos vies. Quelque chose sur ce plan-là qui est d'ailleurs assez stimulant.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui vous aurait accompagné pendant le Covid ?
Ouais, alors j'ai écouté pas mal de musique classique en fait, alors que j'en écoutais pas tant que ça. Par exemple, j'écoutais beaucoup les disques de Toumani Diabaté là, récemment avec le London Symphonic Orchestra. Enfin voilà, là, sans paroles et où la musique permet de planer, etc.
Merci beaucoup, Maëlys Ekeringel.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et demain, signé Guillemette Franquet, c'est tous les matins, face à des personnalités pour une séance de confidence. Il est 8h37, ou presque, la culture, dans un instant, la priorité au cinéma, c'est mercredi. Il y a Kaamelott qui arrive sur le grand écran, à tout de suite.
Vous êtes de retour, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a là commencé sérieusement à tirer la langue. Hein.
C'est-à-dire ?
C'est métaphorique. En fait, ils tirent pas littéralement tous la langue. Ils sont au bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a pas littéralement un gros rouleau avec des gens au bout.
RTL Matin.
Stéphane Car.